Se manga solo mondio, gene se mama, son mundo, o se calvare, oh wa.
Huitième partie, Robben Island, les années sombres. À minuit, je ne dormais pas et je contemplais le plafond quand j'ai entendu des pas dans le couloir. J'étais seul dans ma cellule, séparé des autres. On frappa à ma porte et je vis le visage du colonel Okan entre les barreaux. « Mandela, me dit-il, tu as de la chance. On t'emmène dans un endroit où tu seras libre. Tu pourras te déplacer à ta guise, tu verras l'océan et le ciel, pas seulement des murs gris. » Okan réveilla les autres, qui se trouvaient tous dans la même cellule, et il leur ordonna de préparer leurs affaires. Un quart d'heure plus tard, nous traversions le labyrinthe de fer de Pretoria Central, avec sa suite de portes métalliques bruyantes qui résonnaient dans nos oreilles. Nous sommes partis discrètement, secrètement, avec une impressionnante escorte policière au milieu de la nuit, et moins d'une demi-heure plus tard, nous nous sommes retrouvés sur un petit aérodrome de l'armée à l'extérieur de la ville. Après environ une heure de vol, l'aube a éclairé la terre en dessous. L'avion avait des hublots et dès qu'on a pu voir quelque chose dans la faible lumière, mes camarades ont pressé leur visage contre la vitre. Nous volions en direction du sud-est, au-dessus des étendues plates et desséchées de l'état libre d'Orange, puis de la péninsule verdoyante du Cap. Bientôt, nous avons vu les maisons boîtes d'allumettes des Cape Flats, les tours illuminées du centre-ville et le sommet horizontal de la montagne de la Table. Puis, au milieu de la baie de la Table, dans les eaux d'un bleu profond de l'Atlantique, nous avons distingué les contours brumeux de Robben Island. Nous nous sommes posés sur un terrain d'aviation à une extrémité de l'île. On nous a conduits vers la vieille prison, une bâtisse de pierre isolée où on nous a donné l'ordre de nous déshabiller alors que nous étions encore à l'extérieur. Quand nous avons été déshabillés, on nous a jeté l'uniforme kaki de Robben Island. Nous avons tous reçu un short, un pull très léger et une veste de toile. Cathy, le seul Indien, a reçu un pantalon long. Ce jour-là, j'ai mis mon short, mais je me suis juré que je ne le porterai pas longtemps. Notre séjour dans la vieille prison n'était que temporaire. Les autorités terminaient un ensemble séparé avec une sécurité maximale pour les prisonniers politiques. Le nouveau bâtiment était une forteresse en pierre, de plein pied et rectangulaire, avec au centre une cour au sol de ciment d'environ 30 mètres sur 30. Il y avait des cellules sur trois côtés. Le quatrième était un mur de 3 mètres de haut avec une passerelle sur laquelle patrouillaient des gardes accompagnés de bergers allemands. On nous a donné des cellules individuelles situées de part et d'autre d'un long couloir, la moitié d'entre elles donnant sur la cour intérieure. Je parcourais la longueur de ma cellule en trois pas. Quand je m'allongeais, je sentais le mur avec mes pieds et ma tête touchait le ciment de l'autre côté. Elle mesurait environ 1,80 m de large et les murs avaient au moins 60 cm d'épaisseur. Chaque cellule avait une fenêtre de 30 cm de côté, avec des barreaux métalliques. J'avais 46 ans. J'étais un prisonnier politique condamné à la prison à vie, et je vivrais dans ce petit espace pendant je ne savais combien de temps. Un certain nombre de prisonniers nous ont bientôt rejoints. Ils avaient été détenus dans la section générale, à un bâtiment de briques assez bas, peu éloigné de la section B. La prison générale, qu'on appelait section F et G, abritait un millier de prisonniers, la plupart de droit commun. Un quart d'entre eux étaient des politiques, et c'est quelques-uns choisis parmi ces derniers qui nous ont rejoints en section B. Nous étions isolés des autres prisonniers pour deux raisons. On nous considérait comme dangereux sur le plan de la sécurité, mais encore plus sur le plan politique. Les autorités craignaient que nos idées ne contaminent les autres prisonniers. Robben Island avait changé depuis que j'y avais passé une quinzaine de jours en 1962. À l'époque, il y avait peu de prisonniers. L'île ressemblait plus à une prison expérimentale. 2 ans plus tard, elle était devenue l'avant-poste le plus dur et à la direction la plus brutale du système pénitentiaire sud-africain. C'était un endroit éprouvant, pas seulement pour les prisonniers, mais aussi pour le personnel. Les gardiens métis qui nous donnaient des cigarettes et de l'amitié avaient disparu. Les gardiens étaient blancs, essentiellement de langue afrikaans, et ils exigeaient une relation maître-serviteur. Nous avions l'ordre de les appeler baas, ce que nous refusions de faire. Sur Robben Island, la division raciale était absolue. Il n'y avait pas de gardiens noirs et pas de prisonniers blancs. Au bout de quelques mois, notre vie avait trouvé son rythme. La vie en prison se répète à l'infini. Chaque jour est semblable à la veille. Chaque semaine ressemble à la précédente, et les mois et les années finissent par se mélanger. Chaque chose qui sort de l'ordinaire trouble les autorités, car la répétition est le signe d'une prison bien tenue. Le gardien de nuit nous réveillait tous les matins à 5h30. Il agitait une cloche de cuivre au bout de notre couloir en criant « Word wakker, stan op !»« Réveillez-vous debout !» Je me suis toujours levé de bonne heure et ça ne me coûtait pas. Si on nous réveillait à 5h30, on ne nous laissait pas sortir avant 6h45. Nous devions avoir nettoyé notre cellule et roulé nos couvertures et nos matelas. Il n'y avait pas d'eau courante dans les cellules, et comme toilette, nous avions un seau hygiénique en fer de 30 cm de diamètre avec un couvercle de porcelaine concave qui pouvait contenir de l'eau. C'était avec cette eau que nous devions nous raser et nous laver les mains et le visage. À 6h45, quand nous sortions de nos cellules, nous allions d'abord vider nos seaux. Nous devions les nettoyer soigneusement dans les lavabos qui se trouvaient au bout du couloir, sinon ils puaient. La seule chose agréable du nettoyage des seaux, c'était qu'au début, il s'agissait du seul moment où nous pouvions échanger quelques mots. Les gardiens n'aimaient pas rester là au moment du nettoyage, et on saisissait l'occasion pour parler à voix basse. Au cours des premiers mois, des prisonniers de la section générale venaient nous apporter le petit déjeuner dans nos cellules. Il se composait de bouillie de maïs. Le petit déjeuner nous était apporté dans la cour, dans d'anciens bidons d'huile en métal. Nous devions nous servir nous-mêmes avec des bols en fer. On nous donnait une tasse de ce qu'on appelait du café, mais qui n'était en fait que du maïs moulu, cuit jusqu'à ce qu'il soit noir et qu'on laissait infuser dans de l'eau chaude. Plus tard, quand nous avons pu aller dans la cour pour nous servir nous-mêmes, je courais autour de la cour en attendant l'arrivée du petit déjeuner. Comme toute chose en prison, la nourriture était discriminatoire. Le petit déjeuner était le même pour tout le monde, mais les Indiens et les Métis recevaient une cuillère de sucre, tandis que les Africains n'en recevaient qu'une demi. La logique derrière tout cela, car il y avait toujours une logique perverse derrière une situation, était que la nourriture correspondait au goût supposé de chaque ethnie. Le sucre, semble-t-il, ne plaisait pas aux Africains. Après l'inspection, nous allions casser des pierres dans la cour jusqu'à midi. Il n'y avait pas de pause. Si nous ralentissions l'allure, les gardiens nous hurlaient d'accélérer. À midi, la cloche du repas sonnait et l'on apportait dans la cour un tonneau en fer plein de nourriture. Après le déjeuner, nous travaillions jusqu'à 16h. Les gardes sifflaient et nous nous mettions à nouveau en rang pour être comptés et inspectés. On nous accordait alors une demi-heure pour nous laver. La salle de bain au bout de notre couloir avait 2 douches d'eau de mer, un robinet d'eau salée et 3 grands baquets de tôle galvanisée qui nous servaient de baignoire. Il n'y avait pas d'eau chaude. Nous nous y tenions debout, ou accroupis en nous savonnant dans l'eau saumâtre pour enlever la poussière de la journée. Se laver à l'eau froide quand il fait froid dehors n'est pas agréable, mais nous nous en accommodions. Parfois nous chantions en nous lavant, et l'eau nous semblait moins glacée. Dans les débuts, c'était un des seuls moments où nous pouvions parler. À 16h30 précise, on frappait violemment à la porte de bois au bout de notre couloir, ce qui voulait dire qu'on avait apporté le souper. Les prisonniers de droit commun nous donnaient une assiette de nourriture et nous allions manger dans notre cellule. Nous avions de nouveau de la bouillie de maïs, parfois avec une carotte solitaire ou un morceau de chou ou de betterave. Mais en général, nous devions le chercher pour le trouver. Si nous avions un légume, en général, nous en avions pendant des semaines, jusqu'à ce que les carottes ou les choux soient moisis et que nous en soyons écœurés. Tous les deux jours, on nous donnait un petit morceau de viande avec notre bouillie. Ce minuscule bout de viande caoutchouteux aurait été laissé de côté dans l'assiette d'un restaurant. À 20h, le gardien de nuit s'enfermait dans le couloir avec nous et passait la clé à l'extérieur à un autre gardien par un petit trou de la porte. Ensuite, il descendait et remontait le couloir en nous donnant l'ordre d'aller nous coucher. À Robben Island, on ne criait pas « extinction des feux », parce que dans nos cellules, les ampoules protégées par un grillage restaient allumées toute la nuit. Plus tard, ceux qui faisaient des études pour passer un examen ont été autorisés à lire jusqu'à 10 ou 11 heures. En prison, tous les condamnés sont répartis par les autorités en 4 catégories, A, B, C et D. La catégorie A est la plus élevée et donne le plus de privilèges. D est la plus basse et elle en donne le moins. En général, les classifications accompagnaient la longueur de la peine. Si l'on était condamné à 8 ans, on était classé en catégorie D pendant les 2 premières années, en C pendant les 2 suivantes, puis en B pour 2 ans, et enfin en A. Mais les autorités se servaient du système de classification comme d'une arme contre les prisonniers politiques et nous menaçaient de nous faire redescendre du rang durement gagné afin de contrôler notre conduite. En tant que prisonnier du groupe D, je n'avais droit à recevoir qu'une seule visite et à écrire qu'une seule lettre tous les 6 mois. Je trouvais qu'il s'agissait d'une des restrictions les plus inhumaines du système carcéral. La communication avec sa famille est un des droits de l'homme. Les classifications artificielles du système ne devraient pas pouvoir y porter atteinte. Mais il s'agissait d'un des éléments de la vie en prison. En prison, il y a pire que les mauvaises nouvelles de sa famille. C'est l'absence totale de nouvelles. Il est toujours plus difficile d'affronter les malheurs et les tragédies qu'on imagine que la réalité même menaçante ou désagréable. Une lettre annonçant une mauvaise nouvelle vaut toujours mieux qu'aucune lettre. Au cours des premiers mois, j'ai reçu une lettre de Winnie, mais la censure avait eu la main si lourde qu'il ne restait guère autre chose que les salutations. Les censeurs de l'île rayaient à l'encre tous les passages qu'ils jugeaient interdits. Mais ils ont changé leur façon de faire après s'être rendu compte que nous lavions l'encre pour lire ce qu'il y avait en dessous. Ils ont utilisé un rasoir pour couper des paragraphes entiers. Fin août, alors que je me trouvais sur l'île depuis moins de 3 mois, les autorités m'ont informé que j'allais recevoir une visite le lendemain. Les visites sans contact avaient lieu dans une petite salle sans fenêtre. Côté prisonnier, il y avait 5 petites cabines avec une vitre carrée qui donnait sur des cabines semblables situées de l'autre côté. On s'asseyait sur une chaise et on regardait à travers la vitre épaisse dans laquelle on avait percé quelques petits trous pour permettre la conversation. Il fallait parler très fort pour se faire entendre. Plus tard, les autorités ont installé des micros et des haut-parleurs. Une légère amélioration. J'ai été convoqué au parloir en fin de matinée et je me suis assis au bout de la pièce. J'attendais avec une certaine angoisse et brusquement, remplissant entièrement l'autre côté de la vitre, il y eut le beau visage de Winnie. Je me suis rendu compte tout de suite que Winnie était terriblement tendue. Me voir dans de telles circonstances devait être éprouvant. Le simple fait d'atteindre l'île représentait une difficulté à laquelle s'ajoutaient les rituels atroces de la prison, ainsi que les indignités des gardiens et l'aspect impersonnel de notre contact. J'ai découvert plus tard que Winnie venait de se voir infliger une deuxième interdiction et qu'elle avait dû quitter son travail au service de la protection infantile. La police avait perquisitionné son bureau avant qu'on ne la renvoie. Les interdictions et le harcèlement contre ma femme m'inquiétaient beaucoup. Je ne pouvais pas veiller sur elle et sur les enfants, et l'État lui rendait la tâche encore plus difficile. Mon impuissance me rongeait. Le règlement exigeait que la conversation ait lieu en anglais ou en afrikaans. Les langues africaines étaient interdites, et elles ne pouvaient concerner que des questions familiales. Toute parole qui s'écartait de la famille et qui abordait des questions politiques pouvait entraîner la fin brutale de la visite. Si l'on mentionnait un nom inconnu des gardiens, ils interrompaient la conversation et demandaient de qui il s'agissait et quelle était la nature de la relation. Cela arrivait souvent, car les gardiens connaissaient mal la variété et la nature des noms africains. J'étais mécontent de perdre de précieuses minutes à expliquer à un gardien les différentes branches de la famille. Mais leur ignorance travaillait aussi en notre faveur. Cela nous permettait d'inventer des noms de code pour les gens dont nous voulions parler comme s'il s'agissait de membres de la famille. Cette première visite fut importante, car j'appris que Winnie s'inquiétait pour ma santé. On lui avait raconté que nous étions maltraités physiquement. Je lui ai rapidement dit que j'allais bien et elle pouvait se rendre compte que j'étais en forme, bien qu'un peu plus mince qu'avant. Elle aussi avait maigri, ce que j'attribuais à la tension. Après une visite où le visage de Winnie m'apparaissait tiré ou tendu, je lui demandais de reprendre un peu de poids. Elle suivait toujours un régime et je lui demandais de ne pas le faire. Je l'ai interrogée sur chacun des enfants, sur ma mère et mes sœurs, et sur sa famille. Soudain, j'ai entendu le gardien derrière moi qui disait « C'est l'heure, c'est l'heure ». Je l'ai regardé incrédule. Il n'était pas possible qu'une demi-heure se fût écoulée. Mais il avait raison. Les visites semblaient toujours filer en un clin d'œil. Pendant toutes les années où je suis resté en prison, j'ai toujours été surpris quand le gardien criait « C'est l'heure ». On nous a bousculés de nos chaises et nous nous sommes fait un petit au revoir de la main. J'ai toujours eu envie de m'attarder un peu après le départ de Winnie, simplement pour garder la sensation de sa présence. Mais je n'ai jamais laissé paraître une telle émotion devant les gardiens. En revenant dans ma cellule, j'ai repassé dans ma tête tout ce dont nous avions parlé. Pendant les jours, les semaines et les mois suivants, je me suis souvent remémoré cette visite. Je savais que je ne pourrais pas revoir ma femme avant au moins 6 mois. Mais en fait, Winnie n'a pas pu me rendre visite pendant 2 ans.